垄断。
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 mode d'emploi dans l'émission mode d'emploi. Ce soir, c'est l'émission Secret de Fabrication. Je suis avec Bob.
Salut tout le monde.
Gilles à la technique et moi-même Ludovic au micro. Alors Bob, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. Tu vas nous parler de l'inspection du travail.
Alors,
et tu vas nous diffuser des sons qui datent de juin dernier, mais qui sont importants à écouter.
Tout à fait. En fait, on essaie de pas trop non plus parler de nous. On essaie d'inviter toutes sortes de salariés, et notamment quand ils sont en action. Et là, il s'avère que c'est un peu la concordance des astres, puisque en fait, nous sommes nous-mêmes en action pour nos droits et pour ce qu'il faut bien. Donc, j'ai pensé que ça pouvait intéresser les auditeurs de Secret de Fabrication, de voir un peu aussi comment nous on se bouge dans notre propre milieu, sachant que c'est des luttes au long cours. Alors ça se traduit pas forcément par des grèves, mais toutes les luttes dans l'entreprise ne se traduisent pas forcément par des grèves. Il y a des résistances qui prennent d'autres formes. Et là, pourquoi est-ce qu'on a autant de sons? C'est qu'en fait c'est une action qui dure depuis un certain temps. Vous allez voir quand vous entendrez donc les événements, que ça fait un bout de temps que en fait on est en résistance et que c'est un peu particulier. C'est une forme de résistance où on arrive grâce aux failles juridiques du dispositif de la hiérarchie en fait à refuser le surcroît de tâches, refuser la surcharge de travail et tenir face à la d'assumer le surcroît de tâches qui en fait est illégal, c'est pour ça qu'ils sont faibles. Mais on va rentrer plus dans le détail. Alors le son a été récupéré en deux fois, c'est-à-dire que j'ai procédé en deux fois. Les sons qui sont des sons de manifestation proviennent donc d'un rassemblement en bas de la direction générale du travail le 3 juin de cette année, où dans la continuité, comme vous l'entendrez, des actions qu'on a menées jusqu'ici pour monter un peu le niveau. Et les sons qui sont plus récents, donc qui ont été enregistrés cette semaine, c'est un collègue qui a bien voulu justement écouter le reportage sur la mobilisation et faire part de ses commentaires, des éléments de situation. Sans plus tarder, on va commencer par la mise en contexte qu'il fait pour nous.
Alors voilà, nous sommes dans un réduit top secret intersyndical dans une administration française d'un département de proximité et nous sommes en train de conspirer pour aboutir au triomphe de notre cause. Et donc je suis ici donc avec un camarade qui a eu le courage de venir nous exposer notre grave situation et la résistance acharnée que nous menons. Vas-y camarade, présente-toi.
Bonjour, je suis agent public au sein du ministère du Travail et nous allons parler un peu des actualités au sein de ce ministère.
Il y a eu de l'actualité, effectivement. Enfin, l'actualité, c'est même pas que de l'actualité, puisqu'il y a un historique derrière tout ça. Sans trop entrer dans le détail, on a subi quelques réformes ces derniers temps dans le ministère.
Alors oui, les réformes se sont enchaînées déjà depuis 2014 avec la réforme dite Sapin, un chamboulement des collectifs de travail, un chamboulement des organisations de travail, et les réformes s'enchaînent les unes après les autres. On n'a même pas le temps d'en digérer une complètement et de s'habituer au nouveau mode de travail, à la nouvelle organisation du travail, qu'on remodifie derrière, on plaque réforme sur réforme.
Et généralement, en plus, quand on connaît ceux qui nous gouvernent, ces réformes ont généralement un objectif, c'est de faire des économies. C'est toujours la réforme par l'austérité.
Alors c'est effectivement c'est le but à peine voilé, on va pas se mentir, sachant que on a un ingrédient nouveau qui dont le ministère nous met une dose un peu plus forte jour après jour, c'est le cynisme. Un cynisme qui est de plus en plus décomplexé, assumé. Un exemple tout bête, on redécoupe des sections d'inspection il y a quelques années de ça, vers 2016-2017, après avoir constaté un premier échec de la nouvelle organisation du travail, une interrogation en profondeur des agents de contrôle sur ce nouveau degré de hiérarchie qui est créé, qu'on appelle les responsables d'unité de contrôle.
Les RUC.
Les RUC, voilà. Et du coup, donc, le constat amer que le nombre d'agents de contrôle n'est pas suffisant pour couvrir le nombre de sections existantes. Donc, que fait l'administration? Que fait que font les directions? Eh bien, ils réinventent l'arithmétique. Normalement, 1 égale 1, ça, n'importe quel enfant en primaire est capable de le comprendre. Eh bien, l'administration vous explique que désormais, 3 égale 1 et que 10 égale 3, par exemple. Je m'explique, on vous explique clairement qu'on va redécouper les sections, que sur une unité de contrôle de 10 sections, quand il n'y a que 3 sections d'occupées et 7 vacantes, je grossis un peu le trait, mais on est même quand même pas très très loin de la réalité. Et bien sur les 3 sections occupées et les 7 vacantes, sur les 10, et bien on décide qu'il n'y a plus 7 sections vacantes, mais qu'on redécoupe, un mot magique, le redécoupage, et que désormais et ben les 10 sections ne sont plus 10 mais 3. C'est le même territoire qui est redécoupé en 3 sections.
Donc la conséquence, c'est qu'en fait chaque inspecteur ou inspectrice a une section qui vient de doubler de volume géographiquement et en nombre de salariés.
Alors ça, c'était en 2016-2017. C'était déjà effectivement la situation. Sauf que en 2017, la direction, nous tenait le discours que c'était ça et que ça serait la situation un peu définitive, que promis juré, on redécouperait pas, que ce serait voilà, que ce serait comme ça. Sauf que effectivement la logique financière étant ce qu'elle est, c'est-à-dire on tape au porte-monnaie sur ce qu'on estime ne pas être prioritaire, ne pas être fondamental dans l'administration publique, et la direction nous agite le spectre permanent du plafond d'emploi pour justifier le fait que les postes vacants ne soient pas pourvus. On se retrouve dans les mêmes situations et les recettes magiques fonctionnant toujours tant qu'on les emploie, on nous refait le coup du redécoupage. Et on redécoupe sur les 3 sections, je caricature encore une fois, mais sur les 3 sections auxquelles on était arrivé en 2016-2017, on nous dit désormais que 3 égale 1 et que désormais le territoire correspondra à une section. Bien évidemment, on n'est pas arrivé à une unité de contrôle qui correspond à une section, mais c'est pour donner le principe un peu qui préside aux décisions qui sont prises par les différents niveaux de direction et sans le moindre état d'âme par rapport à la santé et à la charge de travail des agents qui doivent subir ça.
Ouais. Pourtant, en fait, là, ils ont atteint la limite un peu dans le redécoupage parce qu'il y a des normes, normalement qui fixent un maximum au nombre de salariés par agent de contrôle et que donc, ça fait longtemps qu'ils les ont explosés. Et maintenant, en fait, on se retrouve avec une situation un peu différente, c'est-à-dire qu'ils redécoupent plus, ils osent plus trop redécouper avec autant de facilité qu'ils l'ont fait la première fois, mais ça se traduit par quoi maintenant pour les agents en fait?
Alors l'ingéniosité des directions, elle connaît pas de limite, c'est un peu comme la raison pour Descartes. Étant donné qu'on ne peut pas redécouper à l'infini sans à un moment donné passer pour ce qu'on est, c'est-à-dire un bourreau en bonne et due forme, on invente un nouveau concept qui est celui des intérims, mais pas les intérims tels que prévus par le code du travail qui correspondent.
C'est-à-dire...
Alors les intérims prévus par le code du travail, c'est ce qu'on appelle les intérims conjoncturels, c'est-à-dire quand un collègue est en congé, en vacances, ou quand il est en arrêt maladie, les autres collègues assument la section temporairement, la section du collègue, mais ça n'est que temporaire.
D'accord, ça c'est le principe de couverture de tout le territoire par le service public.
Voilà, bien sûr, c'est pour assurer effectivement le principe de continuité du service public qui évidemment impose qu'on puisse apporter une réponse à un administré qui a un problème.
Mais ça, c'est pas les intérims structurel dont tu viens d'aborder.
Alors les intérims structurels, c'est une novation, une invention, une impudence supplémentaire de la part des directions qui estiment que 1 plus 1 plus 1, donc 3, égale 1. C'est bien ça aussi. Et que quand des sections sont vacantes, il n'y a même pas besoin de redécouper. On va demander à ceux qui restent d'assurer l'intérim de façon pérenne, donc sans limitation de temps, même quand les arrêtés peuvent prévoir une limitation de temps, en réalité ça tourne toujours entre les présents. Et donc, quelque part, c'est un détournement complet de l'esprit de la loi, de l'esprit de la réglementation, et c'est en fait faire une économie budgétaire d'échelle, d'ailleurs, consistant à faire assumer les postes vacants par les présents, et à doubler, ou voire même tripler, la charge de travail des présents.
D'accord. Donc on a des sections qui sont vides en permanence, mais sur l'arrêté, c'est écrit que quelqu'un d'autre s'en charge.
C'est ça. Sachant que, en tout cynisme assumé, une fois encore, les directions précisent que ce qui est attendu des agents qui font les intérims, c'est d'assurer uniquement les urgences. Ce qui nous laisse entendre en filigrane qu'ils n'ont absolument aucun souci, aucun état d'âme à laisser les problèmes qu'ils considèrent, on ne sait pas d'ailleurs trop comment, comme non urgents, comme non essentiels, non traités. Voilà. Et sachant qu'ils se moquent aussi éperdument de savoir s'ils mettent en souffrance ou non les agents qui doivent faire ces intérims, puisque nous ne faisons pas ce métier parce qu'il faisait de la lumière et qu'il faisait chaud dans le local quand voilà. On fait ce métier par vocation. C'est pas être déjà fonctionnaire, c'est déjà faire preuve d'une certaine abnégation, parce qu'on est bien plus mal payé et bien plus maltraité que les salariés du privé. Hein. Ça, c'est une réalité qu'il faut à un moment donné rétablir. Mais également parce que c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est ingrat, le métier d'inspecteur du travail, et qui nécessite d'avoir effectivement foi dans le légalisme, foi dans l'amélioration des situations, et qui nécessite une certaine exigence. Et pour ça, on ne peut pas non plus surcharger indéfiniment la barque. Au bout d'un moment, le réalisme doit s'imposer, y compris aux directions.
Et donc effectivement là on est face à une situation en fait qui est illégale mais créée par la hiérarchie, et donc il faut bien réagir dans ces cas-là.
Absolument, ouais. Sachant que juste pour un dernier petit aparté, la légalité c'est un peu comme les promesses électorales, ça n'engage que ceux qui veulent bien y croire. J'ironise, je plaisante bien entendu, mais effectivement les directions ne sont jamais avares en essais, en tentatives, en contournement qui ne dit pas trop son nom de la réglementation, de la légalité, quitte à être retoqué ensuite éventuellement par des recours judiciaires ou administratifs. Mais effectivement, comme indiqué, il y a aussi d'autres solutions, et ces autres solutions sont effectivement d'organiser une certaine résistance à tout ça.
C'est ce qu'on va voir de ce qui s'est passé dans les mobilisations, notamment la mobilisation du mois de juin. Écoutons un peu cela.
Venu ce matin pour ce rassemblement, on va être reçu à midi donc par Pascal Bernard, le DRH national, Laurent Villebeuf, notre ancien directeur régional qui est maintenant numéro 2 à la DGT, et je crois Gaëtan Rudan également, qui est notre chef régional. Donc dans la délégation, il y aura les quatre représentantes et représentants des organisations interprofessionnelles de Seine-Saint-Denis qui sont venus nous apporter, enfin qui ont pu se déplacer aujourd'hui pour nous apporter leur soutien, parce que toutes les organisations interprofessionnelles sont signataires du département, sont signataires du communiqué de soutien à notre mobilisation. Et puis Nadine et moi-même, on ira pour les collègues du département et éviter que le ministère essaye de raconter trop de baratins. Bon, je ne vais pas parler très longtemps, mais de toute façon, ce qu'on va demander, c'est assez simple, hein, c'est qu'il y ait des recrutements et des affectations sur les postes qui sont vacants aujourd'hui. Au niveau de l'inspection dans le département du 93, au 1er juillet, donc on aura 11 postes vacants, sans perspective d'arrivée. Ça fait plus de 20% des sections d'inspection donc qui seront vacantes. Dans un département dont on connaît les caractéristiques socio-économiques et le besoin pour les travailleurs d'avoir un accès au service public de l'inspection du travail. Évidemment, il y a aussi des problèmes du côté des postes dans les services de renseignement, du côté des postes dans les secrétariats de section qui sont laminés après année. Donc on va évidemment parler de tout ça. Et puis dénoncer une situation qui n'est pas, malheureusement, pas propre à notre département, même si elle le touche particulièrement, puisque ce que nous a dit Éloi Dorado, le directeur départemental de la Seine-Saint-Denis, c'est que au plan régional, il y a 82 emplois d'agents de contrôle qui sont vacants, donc c'est colossal. Et malgré ça, d'après les autorisations d'emploi qui ont été adressées par la DRH au mois d'avril, la région Île-de-France serait en sureffectif. Donc on en arrive à une situation prodigieuse, ou alors qu'il manque rien que dans les services d'inspection, rien qu'au niveau des agents de contrôle, il manque 82 emplois. mais la région serait prétendument en sureffectif et donc on ne pourrait plus recruter d'agents. Donc évidemment, bah, il faut qu'on se mobilise hein, pour faire cesser cette situation qui est scandaleuse, parce que le statu quo, il ne pourra pas durer bien longtemps. En fait, de deux choses l'une, soit en se battant, on va arriver à obtenir des recrutements, soit ça va être la répétition du scénario de 2017, c'est-à-dire que la direction va supprimer en fait les sections vacantes. Elle en avait supprimé 47 à l'époque en nous promettant que ce serait la fin des intérims. Bon ben, quelques années après, les intérims sont revenus et puis elle réaffectera les secteurs, les salariés aux collègues qui seront présents et on explosera, déjà qu'il est dépassé dans un certain nombre de sections et de départements, le prétendu plafond des 10 000 salariés, bon, qui n'est pas la norme que nous on souhaite, mais qui est la norme dont ils se prévalent, elle sera complètement explosée. On arrivera avec des secteurs d'un agent pour 15 000, un agent pour 18 000. Voilà, donc aujourd'hui, ben, c'est la suite de la mobilisation qu'on a initiée en Seine-Saint-Denis, voilà, maintenant 18 mois, quand on a décidé de dire stop et d'arrêter de pourvoir ce sous-emploi, de prendre deux postes à la fois et de se crever à la tâche parce que le ministère ne veut pas recruter. Mais c'est une mobilisation qui va sans doute continuer, à moins qu'on ait des annonces miraculeuses cet après-midi. Et il y aura d'autres échéances dans le mois de juin. Peut-être que d'autres camarades, voilà, comme je vais m'arrêter là, d'autres camarades y reviendront. Et puis ben, aujourd'hui, il y a quand même, voilà, même si c'est le 93 qui a lancé ce rassemblement, il y a quand même des collègues et des camarades d'autres départements, notamment de Paris, de Seine-et-Marne, où la situation est aussi gravissime et sans doute qu'elle et ils prendront la parole tout à l'heure pour l'expliquer. Peut-être qu'avant qu'on rentre voilà, pour participer à la réunion, on va donner la parole aux camarades des organisations interprofessionnelles qui sont venus nous soutenir.
Ici le poinçonneur des Lilas. Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise quand on ne regarde pas. De quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, c'est l'émission Mode d'emploi. Aujourd'hui, c'est l'émission Secrète Fabrication avec Bob au micro, Gilles à la technique et moi-même Ludovic. Eh bien, Bob, on vient d'entendre des inspecteurs du travail en lutte.
En lutte, voilà, c'est ça. Donc là, le dernier son était un son pris au pied de la Direction Générale du Travail, donc au pied duquel nous nous étions rassemblés le 3 juin, dans le cadre d'une action au long cours de refus, en fait, de ce qu'on appelle les intérims structurels. On va développer un peu là-dessus. Le collègue qui a bien voulu commenter notre action va expliciter un peu de quoi il s'agit. Donc on refuse la surcharge de travail, et là, on en était à un point particulier dans le bras de fer, on porte la revendication au plus haut niveau parce qu'on sait qu'ils sont en fait en difficulté avec cette forme de résistance et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Donc voilà, ça, c'était ce qu'on vient d'entendre, on va en entendre encore un peu, et là de nouveau le collègue nous fait un exposé de la situation plus générale.
Donc tu as entendu comme moi, il y a eu donc une mobilisation pendant l'été. Elle ne faiblit pas, déjà il faut qu'on dise tout de suite aux auditeurs que là on est en octobre, mais qu'elle ne faiblit pas, puisqu'on a continué à agir depuis ce moment.
Absolument.
Voilà. Qu'est-ce que tu résumerais, je dirais, que jusqu'ici, y compris cette action devant la Direction Générale du Travail, quel message tu penses qu'on envoie aux collègues, en fait?
Ben, on envoie comme message aux collègues que tout d'abord on n'est pas dupe des manigances de la direction et du ministère de façon globale, déjà pour commencer. Ne serait-ce que par rapport à cette notion absolument odieuse de plafond d'emploi qui nous est balancée dans les pattes, qui n'empêche absolument pas le ministère de créer de nouvelles strates de directeurs hors cadre, hors classe, tout un tas de choses ronflantes, et qui occupent en fait ces postes-là qui sont créés, occupent la masse salariale qui nous est refusée sur les postes d'opératifs, sur les postes d'agents de contrôle, sous le fallacieux prétexte de mettre en avant un plafond d'emploi.
Donc, si je comprends bien, Les responsables d'unités de contrôle, les RUC dont on a parlé, en fait, c'est des postes qui sont soustraits au contrôle.
Ce sont des postes qui sont soustraits au contrôle dans la mesure où une très faible minorité d'entre eux a réussi d'ailleurs à négocier avec les dents le fait de garder une section inspectante, enfin d'être des postes inspectants. Mais ce n'est pas la philosophie du ministère. Le ministère veut des encadrants, veut ce qu'il appellerait, avec cette terminologie absolument odieuse de franglaise, des managers.
Des pilotes, quoi.
Voilà, on veut des managers pour manager la cohorte indisciplinée et à la nucrède des agents de contrôle qui ne comprennent rien à rien, qui font très mal leur travail, c'est bien connu, hein, tout le monde se plaint d'eux, urbi et orbi. Bon, plus sérieusement, ce sont des postes effectivement qui étaient avant des postes qui ont été effectivement soustraits au nombre global des postes d'agents de contrôle, et au-delà même de la problématique des RUC, comme le disait le camarade qu'on a entendu, il y a une problématique de postes non pourvus, alors que ce soit parce que les anciens collègues sont partis à la retraite, parce qu'ils ont changé de région pour des raisons diverses et variées, et on a la région Île-de-France notamment qui parle de sureffectif de la région, alors que c'est complètement faux.
Donc si je résume, le sureffectif, c'est le sommet qui est plein comme un œuf. Et à la base, c'est vide.
C'est exactement ça. Et de toute façon, là, on discute de façon rationnelle des choses, mais la direction ne s'encombre pas du tout de rationalité. Et quand bien même il n'aurait pas recréé de strates qui absorberaient la masse salariale, il ne s'encombre absolument pas de problème. S'ils vous disent que c'est en sureffectif, on est pris de les croire sur parole. Et de toute façon, comme c'est eux qui ont le dernier mot quant à la création ou le fait de mettre les postes à la vacance, de toute façon le problème est réglé. C'est pas, on n'a pas, enfin, si on ne s'organise pas et si on ne résiste pas, on n'aura pas droit à la parole. Donc il faut qu'on s'organise, il faut que la direction sente bien qu'ils sont arrivés au bout des impudences possibles. On a le dos large, on est patient, on aime notre métier, on a à cœur de bien le faire, mais au bout d'un moment c'est stop, ça suffit. On peut pas tirer la corde indéfiniment.
Alors, en fait, on va ranger dans les conséquences de toute cette incurie. Hein, on va passer en fait sur les primes qui nous ont été refusées cette année, ou sur lesquelles on a eu des micro primes, voire pas de primes du tout. Donc sur cette année, bon, ça fait partie de la répression à laquelle on peut s'attendre, mais ça a des conséquences aussi à l'extérieur. Je pensais notamment le 12 octobre dernier. En Corse, un collègue s'est fait violemment agresser.
Hein. Alors les conséquences, elles sont multiples. C'est un peu comme un noyau atomique lors d'une réaction de fission ou de fusion, je sais plus. Ça part dans tous les sens. Les conséquences, elles sont abominables. D'abord, tu parlais des primes. Il y a eu effectivement un petit scandale intérieur à notre ministère, c'est sûr. Hein, c'est pas interplanétaire, mais malgré tout, donc de conséquences de répression, puisque alors déjà, il faut savoir que l'attribution de ces sommes d'argent en tant que prime, alors que ça devrait être intégré au traitement normalement, c'est déjà en soi-même une infamie. Normalement, cet argent-là, il appartient aux travailleurs publics, il appartient donc aux agents publics.
Pour leur sécu et pour leur retraite.
C'est-à-dire en cotisant pour leur retraite et en cotisant sur la sécu, alors que sur les primes, on ne cotise pas, voilà, donc merci patron, donc ça, c'est la première infamie. La deuxième infamie, c'est que ces primes ne sont pas attribuées de façon égalitaire, elles sont attribués à la gueule sous prétexte soi-disant de faire ça au mérite. En fait, on fait ça en fonction de ce qu'on veut, et surtout on discrimine bien tranquillement à l'appartenance syndicale ou à l'activité syndicale. Et il s'avère qu'effectivement un certain nombre de collègues syndicalistes se sont trouvés bizarrement sanctionnés sur ce coup-là.
Voilà. Ouais. Et c'est là encore quand on fait la comparaison, parce que heureusement on arrive à se battre pour avoir les chiffres, et résultat net, que ce qu'on s'aperçoit, c'est que le nombre de primes, enfin le nombre d'agents méritants croît avec le niveau dans la hiérarchie.
Absolument. Le bizarrement, quel que soit leur niveau de présence au sein des locaux, alors qu'ils demandent alors aux opératifs d'être présents pas à 100% mais pas loin, bizarrement l'encadrement lui est toujours surprimé, il a le dernier niveau de prime. Mais bon, passons, de toute façon ce sont des mesquineries qui sont à la hauteur de la direction et qui sont de toute façon qui n'étonne plus vraiment. Par contre, ce que tu disais effectivement, c'est que on est dans plusieurs niveaux d'infamie. On est également donc on a eu un collègue en Corse qui s'est fait agresser, mmh. agressé par un représentant d'employeur. Il y a eu des coups qui lui ont été portés. Il ne faisait que simplement rappeler la réglementation. On va être très clair sur les choses. Il ne faisait que protéger les personnes. Il ne faisait que rappeler la réglementation. Et encore, dans tout le respect de ses devoirs, dans tout le respect de ses obligations, il n'a à aucun moment commis la moindre faute. Ouais. Ça, il faut bien le rappeler, il faut le marteler. Et
oui, parce que je t'interromps. Pardon. La réaction généralement de la direction dans ces cas-là, c'est de chercher là où l'agent aurait pu manquer de discernement ou créer la situation dangereuse. Mais à chaque fois, il voit pas que forcément, l'occurrence, dans le cas d'espèce. Il s'était rendu sur un chantier où il a vu un travailleur sans casque, en hauteur, travaillant sur une échelle qu'il fallait absolument faire descendre pour sa sécurité, danger grave et imminent, et donc arrêt de chantier. Alors, tout de suite, c'est parti en vrille.
Il faut savoir effectivement que l'arrêt de travaux que tu évoques, c'est la petite réponse maigrichonne que l'État nous condescend à nous donner pour lutter contre la première cause de mortalité dans le BTP. La chute de hauteur. Mmh. La chute de hauteur, c'est pas un fantasme. C'est l'application de la gravité à toute personne qui travaille en hauteur. Il y a des règles. Les règles, elles sont pas faites pour embêter le monde. Mmh. Elles sont simplement faites parce que c'est une réalité. Les gens meurent. Les gens meurent sur les chantiers et ils meurent en tombant de haut. Voilà, c'est tout. Ouais.
Alors, on pourrait être surpris qu'on fasse là le lien entre effectif, prime, reconnaissance et une agression de l'extérieur. Là, pour le coup, c'est pas une agression de l'intérieur du ministère, ça devient de l'extérieur du ministère, parce que c'est un contrevenant employeur qui a promis l'agression. Mais il y a un lien, en fait. Je voulais juste qu'on revoie là-dessus. Le fait que les effectifs baissent, pourquoi ça expose les agents de contrôle à certaines situations comme celle-là ?
Tout se tient déjà. Alors que normalement, dans une saine logique, une réponse adaptée du ministère à ce genre de situation devrait se faire jour, à savoir la mise en cause directe et sans embâge du fautif, du contrevenant et le fait qu'il soit présenté au parquet pour les suites.
Et que le ministère se porte partie civile.
Voilà. Là, le problème, c'est que le ministère cherche à botter en touche au maximum. Il a été question, enfin aux dernières nouvelles, le ministère va proposer aux contrevenants une composition pénale, ce qui est une honte absolue sur ce ministère, qui ne défend pas ses agents, qui n'aime pas ses agents, et qui part du postulat de départ que les agents sont des fauteurs de troubles, que en fait c'est l'essence même, voilà, c'est l'essence même de l'inspection du travail qui heurte, qui irrite ce ministère. Donc en fait on est en face d'un ministère qui ne comprend pas, n'a rien à faire à la tête, enfin ce sont des agents à la tête de ce ministère qui n'ont rien à faire à la direction du ministère, ils n'en comprennent pas le sens, l'utilité, le bien fondé et le service rendu à la nation. On est en totale déconnexion. Vient se greffer là-dessus le fait que, donc on n'a absolument pas des réponses appropriées qui sont données, l'employeur, même contrevenant, a quasiment toujours raison, de toute façon avec le fameux droit à l'erreur martelé l'exécutif, on est déjà dans un encouragement de principe à mal faire, quitte à prendre les autorités et l'administration pour des imbéciles. Et ce greffe là-dessus, la désorganisation des services, on ne va pas parler de réorganisation, mais de désorganisation des services, désorganisation avérée, avouée, assumée par l'État. Prenons le nom d'organisation, de nouvelle organisation territoriale de l'État, la fameuse réforme OTE, pour en reprendre l'acronyme. Et qui conduit peu ou prou, sous couvert, là encore, de logique budgétaire, de mutualisation des moyens et de tout un tas de beaux principes qui font très beau sur le papier, mais qui bizarrement n'ont jamais trouvé une application réelle et concrète dans la réalité, à fragiliser les collectifs de travail, fragiliser les agents. Pour donner un exemple tout bête, sur les trois jours actuels, aujourd'hui, demain et après-demain, dans une idée de
unité
départementale d'Île-de-France, aucun véhicule de service n'est disponible pour les agents qui en auraient besoin. Alors même que l'une des missions essentielles d'un agent de contrôle est d'aller effectuer des contrôles en entreprise et que, à défaut de transport en public qui desservent de façon adéquate le territoire, le véhicule de service reste encore une solution dont on ne peut pas se passer.
Ouais.
On est en voie, faut dire les choses, faut appeler un chat, faut donner un nom, faut mettre un nom sur les choses. Ce ministère déplaît, ce ministère dérange, enfin ses agents dérangent, et on est en voie de France Télécomisation.
Ouais.
On est en voie de France Télécomisation, on veut couper les moyens et on veut nous forcer par diverses pressions psychologiques à craquer.
Ouais. Un dernier point sur les effectifs en relation avec la Corse, hein. Il faut savoir que la Corse, c'est 17 sections d'inspection et il n'y en a que 10 de pourvus. Et en Corse du Sud, là où a eu lieu l'agression, en fait, il n'y en a même pas la moitié. C'est inférieur à la moitié. Donc, on se retrouve avec cette situation où il faut savoir que, bon, toi et moi, on est un peu des vieux de la vieille maintenant, et on se rappelle encore d'une époque où c'était fréquent pour les agents de faire des contrôles en binôme.
Voilà.
Exactement. On avait plus d'agents et ça permettait, en fait, de s'organiser.
Absolument. Et ça permettait aussi un meilleur déroulé du contrôle.
Ben oui.
Le contrôle en binôme, c'est pas juste le plaisir d'aller en contrôle avec un collègue, hein, nonobstant les amitiés qu'on peut développer, mais c'est plus de pertinence. Deux esprits alertes valent toujours mieux qu'un. Deux agents de contrôle voient les choses plus rapidement qu'un seul, peuvent aussi se partager le travail une fois sur place, parce que quand il s'agit effectivement de prendre des renseignements auprès de plusieurs interlocuteurs, et bien effectivement quand on est deux, ça va plus vite. Ça permet aussi d'éviter les générations de situations de tension. Ça permet de faire baisser effectivement les situations de tension et ça permet d'une protection mutuelle des agents. Alors c'est quand même tragique de dire ça. Ça veut dire aussi qu'il y a un déficit réel de considération des agents de ce ministère par l'État et que les agents s'étaient organisés eux-mêmes pour se défendre face aux attaques.
Voilà, et bien, la situation est assez dramatique, mais comme on le disait tout à l'heure, la mobilisation continue et donc nous allons faire retour sur la mobilisation à la Direction Générale du Travail où une collègue va nous expliquer un peu plus la méthode qu'on a employée.
Quel bilan tu tires de la mobilisation d'aujourd'hui alors ?
Alors déjà c'est une super, enfin en soi c'est vraiment hyper positif qu'on ait réussi à la faire, on a réussi à la préparer collectivement à Bobigny alors qu'avec le Covid, la situation sanitaire et même économique, tout le monde a plein de soucis et là on a réussi à préparer quelque chose collectivement, donc ça c'est très important déjà. Après on a quand même été nombreux à venir, alors on n'était pas à notre maximum, mais je pense que c'est lié voilà à la situation globale, mais vraiment ça c'est important. Bon, on a eu du mal à toucher les collègues en dehors de l'inspection du travail, c'est normal, mais c'est pas grave, ça montre qu'on se bouge. Mm-hmm. On les a quand même appelés à se mobiliser sur les recrutements, donc ça SM, ça c'est très très positif. Et alors ce qui est très très positif, donc c'est le soutien de l'Interpro large, hein, quand même du 93, hein, puisqu'il y a quatre syndicats, hein. Donc la CG, l'Interpro CGT, FO, UNSA et Solidaire. Mm-hmm. Et on pense quand même malgré tout que c'est ça qui a permis d'un peu décoincer et qu'on ait enfin un rendez-vous. Même
c'est
si
le bonus quoi.
Qui c'est nous le donne bonus, le... voilà, et qui nous donne la légitimité. Et d'autant plus qu'eux, ils affirment, bah, effectivement, il y a des travailleurs qui sont sans réponse, mais il ne faut pas culpabiliser les collègues de l'inspection. Mmh. C'est bien parce que l'ALTA ne donne pas les moyens aux agents de travailler.
La DGT a essayé de mettre un coin, en fait, entre les
voilà, les c'est ça, voilà, c'est ça. C'est que c'est leur grand discours, hein. Notre direction, c'est de nous culpabiliser. Oui, mais vous ne faites pas votre travail, mais alors ça pèse sur qui ? Sur les usagers, etc. Sauf que ce qui nous propose, en gros, c'est de traiter la demande patronale, hein, c'est de traiter les demandes de licence, d'autorisation de licenciement pour les représentants du personnel, mais en vrai, qu'on ne traite pas le harcèlement moral, les discriminations, les, pro- problème de salaire non payé, ça, ils s'en fichent. Mmh. Ce qui est important, c'est que les décisions administratives demandées par les patrons soient payées. Soit traité, pardon.
Ça fait 18 mois que ça monte, la mobilisation, là, en 4
alors,
mois. Comment
du
vous
coup,
avez fait monter la sauce, en fait?
Alors, ça, c'est monté assez vite. C'est parti en novembre 2019, donc c'est quand même monté assez vite jusqu'au confinement. Et après, je pense que, paradoxalement, pendant le confinement, c'était un peu le bordel, on a réussi quand même à tenir, alors en s'adaptant, puisqu'on a des camarades, les collègues qui boycottaient ont quand même, dans les faits, un peu répondu, parce qu'il y avait une urgence liée à la situation sanitaire et économique, hein, et sociale. Mais malgré tout, on a réussi à continuer. Et puis, quand on est revenu dans les services, c'est reparti.
D'accord.
Alors, il y a eu quand même des... Faut pas le nier, des pressions. Pardon.
Vous avez procédé comment? C'est-à-dire, pour rassembler les collègues?
Alors, l'idée, c'est d'abord, avant de lancer le mouvement, il y a quand même plusieurs assemblées générales, parce que c'est la grève, l'action, elle est faite par les agents de contrôle, mais ça a des effets sur les assistantes de contrôle. Enfin, je dis assistantes parce que ce sont surtout des femmes qui sont en première ligne avec les usagers,
d'accord,
qui, elles, absorbent le mécontentement. Mmh. Donc, on a réussi quand même à faire le point pour pas que ça retombe sur d'autres collègues, enfin des collègues qui sont pas en action, mais qui soutiennent l'action. De fait, en réalité, tout le monde, même si on n'est pas inspecteur du travail avec un intérim, tout le monde est solidaire. Et ce qui est important, c'est qu'on s'est vu régulièrement nager, même s'il n'y avait pas tout le monde, même si la visio c'est compliqué, on a quand même réussi à maintenir un lien et à chaque fois d'avoir une expression collective vis-à-vis de notre direction. Donc au début, avant le confinement, tous les lundis, on allait, ceux qui étaient là, ce qui faisait quand même un peu de monde, on montait voir notre direction porter les dossiers qui n'étaient pas traités. Donc ça a aussi matérialisé les demandes régulièrement.
Voilà.
Donc depuis la reprise, là, on le fait moins, mais on le fait quand même régulièrement. Et du coup, après, notre direction nous a dit, oui, vous allez avoir des annonces, attention, on va voir ce qu'on va voir. À côté de ça, le bruit courait qu'il y aurait des missions IGAS ou je ne sais quoi. Du coup, on s'est dit, ils veulent pas nous recevoir, ils font courir des bruits pour nous mettre la pression. Du coup, on va venir et on va leur dire qu'on est là et demander un rendez-vous. Et à côté de ça, ce qui a quand même débloqué, c'est la réalité, c'est que l'Interpro, large, hein, pour le coup, même les autres syndicats qui n'étaient pas présents aujourd'hui, donc la CFDT, la CFTC, j'en oublie sûrement, mais toutes l'Interpro du 93 a écrit à la ministre. Et ça a un peu réveillé la ministre, puisqu'elle a demandé une réunion pour faire le point. À côté de ça, il y a quand même eu des pressions individuelles, faut pas se leurrer. Ça n'a pas été évident à gérer. On a réussi quand même à dire qu'on était solidaires, mais c'est vrai que c'était pas non plus l'idéal. Il y a des moments où chacun a pu gérer un peu face à la pression de la hiérarchie, mais à chaque fois qu'il y en a eu, on est après tous collectivement, on a montré notre solidarité et on a acté par écrit les choses.
D'accord. Il y avait la présence aujourd'hui donc de collègues du 75 et du 77, donc ça c'est un succès.
Alors ça c'est un grand succès pour nous parce qu'on les remercie parce que c'est pas qu'une affaire de nombre, hein, c'est aussi une affaire donc de solidarité et ça vraiment ça fait chaud au cœur. Et les camarades du 77, là, les collègues, pardon, vont être dans une situation pire que la nôtre, puisque nous, on est à 20% de postes vacants. Là, ils vont arriver à 30%. Donc, ils ont déjà fait des AG et comme ils voient que ça, effectivement, comme mode d'action, peut-être qu'ils vont en arriver là. Et il y a eu beaucoup de collègues de Paris. Alors, à Paris, c'est tellement gros que c'est très compliqué. Ça fait des mois, des années qu'ils essaient de faire des actions couvrant tous les personnels, mais quand en plus il y a plusieurs sites, en plus les services hors inspection sont même pas sur Paris, enfin c'est très compliqué. Mais là il y a quand même des sites qui ont décidé de boycotter. Du coup il y a des collègues concernés qui sont venus, mais même ceux d'autres sites, parce qu'à Paris la situation est aussi très compliquée. Alors je tiens à préciser, pardon, que quand on a monté le mouvement, on a été soutenu par les collègues du 91 qui eux sortaient de plusieurs mois d'intérim, de boycott contrat d'intérim très dur. Ils ont eu beaucoup de pression parce que c'est une plus petite direction où le rapport de force est quand même, il y a moins de syndicats, il est plus défavorable, il y a moins d'habitude de mobilisation. Et les collègues ont été très courageux, ils ont tenu plusieurs mois et c'est aussi en venant à une de nos AG qui ont quand même convaincu qu'on pouvait le faire. Et il y a 2-3 ans, les collègues du 92 avaient réussi aussi à faire une action de ce type. Alors à l'époque, on n'était pas parti en solidarité. Enfin voilà, bon, ça, hélas, des fois, il y a des temps et le temps que tout le monde se réveille, on n'est pas là en même temps. Mais du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment. Enfin, ce soutien qui montre aussi qu'ils sont pris dans les mêmes difficultés, mais ça veut dire voilà, qu'il y a quelque chose en commun qui se construit et c'est très très positif.
Ok, mobiliser, solidariser et élargir. C'est
voilà,
ça
exactement, et élargir dans tout, partout. Et puis après, il y a quand même des problèmes d'effectifs dans d'autres services. Alors c'est très compliqué parce que c'est pas. Après, ça correspond à des problématiques par service qui ne sont pas forcément les mêmes, mais là avec la réforme de l'État et on appelle ça la réforme de l'OTE, l'organisation territoriale de l'État, sont venus des collègues de service qui s'appelle la cohésion sociale, qui ont été mélangés avec des collègues de nous qui s'appellent les politiques de l'emploi, et à la fin tous les postes vacants sont en train d'être supprimés, enfin ouais. Ils sont moins nombreux,
ils ont créé,
voilà, ils ont, et en fin de compte en ne recréant pas des postes, enfin à la fin il y a on se retrouve avec moins d'agents pour plus de travail dans les autres services. Donc c'est l'autre objectif, c'est qu'on arrive à construire entre services une action tous ensemble.
Ok, ben c'est ce qu'on va souhaiter pour
voilà.
l'avenir. À bientôt.
Hein. Et merci d'être là.
Allez,
au revoir.
Bientôt.
Eh bien, écoute, je crois qu'il faut qu'on conclue bientôt cette émission, mais là, on a eu quand même un véritable exposé de notre camarade. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? Bah, peut-être, disons déjà, pourquoi c'est important comme ça que les organisations syndicales interprofessionnelles, donc extérieures à notre ministère, interviennent? Alors, en général et dans notre cas précis.
Ouais. Alors, en général, parce qu'elles font connaître aussi la réalité du terrain et la réalité de la demande sociale, et qu'elles portent la demande sociale de façon large, les salariés qui sont isolés dans leurs entreprises et qui font appel aussi à des défenseurs, les sections syndicales au sein des entreprises, les demandes des salariés auprès des CSE, enfin voilà, tout le fonctionnement des instances sociales au sein du pays est représenté donc par les OS représentatives, et elles font la jonction du coup avec nous dans le sens où tout ça n'est qu'un tout. Quand on tape sur les postes de l'inspection du travail, on tape quelque part sur les OS du privé aussi. On est dans la même barque. On est dans la même barque et les demandes des uns sont faites, enfin appellent les demandes des autres. On est dans un seul mouvement général de défense des droits, de défense des conditions de travail, quels que soient les travailleurs publics ou privés d'ailleurs.
D'ailleurs, il y a une question d'autodéfense pour les organisations syndicales interprofessionnelles, parce que quelque part, c'est comme tu disais, si on supprime l'inspection, on supprime leur interface et un de leurs outils essentiels.
Absolument.
C'est pour ça que on cherche à les impliquer dans les suites juridiques. Ils pourraient être tentés, on est en train de les pousser à la roue, la vérité, hein. De porter plainte en fait pour incurie de l'État, non ?
Absolument, parce que là, en agissant de la sorte, l'État crée des déserts fonctionnels. Mm-hmm. Comme les camarades l'ont dit, comme on a pu l'entendre, on se retrouve avec des salariés et des représentants des salariés d'ailleurs aussi qui se retrouvent sans réponse. Parce que le seul discours audible de l'État en réponse à nos demandes, en réponse à nos protestations contre les demandes d'assurer des intérims structurels, c'est « vous ne vous occupez que des urgences ». Et quelles sont les urgences aux yeux de la direction ? Ce sont bien évidemment les accidents du travail, et encore les accidents du travail généralement mortels, hein, parce que les autres, ben, mon Dieu, si on peut les traiter vite fait, voilà. Ça, mais donc les accidents de travail mortel, ça appelle bien évidemment une réponse même de la plus cynique des directions. Et les demandes émanant des directions d'entreprise pour les licenciements de salariés protégés. Et là, c'est pas tant le désir de protéger les salariés que le désir de satisfaire la demande patronale en apportant une réponse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, positive ou négative, aux demandes de licenciement de salariés protégés. Mmh. Donc ne pas faire attendre le patronat.
Voilà. C'est pour ça qu'à l'inverse, le choix qui a été fait, les dossiers qu'on porte régulièrement à la direction, c'est justement ces dossiers-là en priorité. C'est-à-dire qu'en fait, on leur porte ce qu'on ne veut pas gérer pour faire plaisir au patronat dans la section vacante.
D'une part, mais pas que. On leur apporte tous les dossiers pour leur montrer la réalité. Parce qu'on a une direction qui est coupée des réalités, qui ne sait pas le travail, qui ne connaît pas la charge de travail des sections. Et c'est là d'où vient aussi une bonne partie du problème. C'est qu'il y a l'aveuglement idéologique, mais il y a même un aveuglement pragmatique. Puisqu'ils aiment tant se gargariser de pragmatisme, ils ignorent la réalité du travail, ils ignorent la charge de travail, ils ignorent ce que c'est qu'une réalité de terrain, ce que c'est que d'avoir des salariés démunis qui viennent demander de l'aide et qui sont parfois accompagnés, parfois seuls. On ne peut pas laisser, on ne peut pas décemment considérer comme rien la demande d'un salarié qui vient vous voir parce qu'elle a des soucis dans son entreprise et qui n'a aucun autre relais que l'administration pour faire valoir ses droits.
Ouais. Et en fait, on pourrait dire qu'eux, ils sont dogmatiques dans leur soi-disant pragmatisme, et nous, derrière notre soi-disant dogmatisme, on est très pragmatiques.
Alors, nous ne sommes dogmatiques que de l'aveu scélérat, je dirais, l'aveu cynique d'une direction elle-même totalement dogmatique et qui oublie totalement les fondamentaux de. Voilà, qui oublie d'ailleurs les principes même de la Convention 80 de l'OIT. Hein, voilà. On s'est rappelé des devoirs ou des obligations des fonctionnaires, mais tout le monde ne remplit pas ses obligations. Et les obligations de la direction, notamment l'obligation de sécurité vis-à-vis des agents, elle n'est pas remplie. Bon. Il manque du gras.
Oui, il manque pas mal de gras. Il manque, on est même jusqu'à l'os, hein, en fait. Mais bon. Et néanmoins, le but de cette émission était bien de montrer qu'il est capable, il est possible de résister même dans des conditions difficiles, parce que nous sommes quand même théoriquement des fonctionnaires d'autorité, donc plus soumis que les autres à un certain nombre de devoirs, qui fait que normalement on ne doit pas pouvoir fonctionner, mais on ne va pas pouvoir protester de cette manière-là. Néanmoins, on y arrive quand même. Et donc, je voudrais que pour les auditeurs, on fasse une petite recette d'une mobilité. On pourrait dire, en tout cas dans la durée, qui marque des points. Qu'est-ce que tu penserais, toi allez, premier ingrédient.
Alors, déjà, la mobilisation, enfin, l'inspection, elle reste forte et elle reste soudée. Donc, la mobilisation n'a pas faibli dans le département et dans les différents endroits où elle se fait jour. C'est une mobilisation horizontale et partagée. Donc, avec une bonne conscience des collègues, des enjeux et de l'importance de protester et de faire valoir un point de vue là maintenant, parce que c'est nécessaire, c'est indispensable de le faire maintenant. Mmh. Il ne s'agit pas d'attendre, il ne s'agit pas encore de prendre sur son dos ce qu'on ne peut plus supporter. Mmh. La charge de travail, elle n'est pas extensible à l'infini, rappelons-le, hein, que ce soit même pour les salariés du privé ou les salariés du public.
Et ça, c'est quelque chose que effectivement, tous les agents peuvent exprimer et qui ne se privent pas d'exprimer dans les assemblées générales, à laquelle assiste une intersyndicale quand même
très large. Les différences s'estompent beaucoup à ce niveau-là. Pour revenir sur ce que tu disais, nous sommes certes des fonctionnaires de régalien en tant qu'agent de contrôle, mais néanmoins nous ne sommes pas astreints à un devoir de réserve excessif, on va dire, en regard de certains corps comme la police ou l'armée. Nous avons quand même une certaine liberté d'expression, tout en effectivement
à protéger.
Respectant un devoir de réserve, oui. Mais nous ne sommes pas astreints à nous taire, Dieu merci.
Ils aimeraient bien quand même. Hein.
Ils aimeraient bien, ils essayent de museler, mais voilà, la mobilisation, elle reste en place, elle reste forte. Voilà, on ne laissera rien passer. On a déjà été très très souple, très attentif à faire les choses et à faire même au-delà de ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant par amour du devoir, par amour du travail bien fait. Mais il y a un point de rupture et ce point de rupture, il est atteint.
Voilà. Et quand le point de rupture est atteint, on descend
on voit les collègues et on se mobilise.
Voilà, avec une remontée régulière de l'état de la situation à la direction pour lui rafraîchir les idées, pour lui rappeler qu'on existe, pour lui rappeler aussi que il y a ce problème-là, mais il y a une pléthore de problèmes d'organisation, de logistique qui viennent accentuer la souffrance des agents et que il est temps d'écouter, il est temps d'entendre ce que les agents ont à dire, il est temps d'entendre les enjeux et que le dogmatisme de la direction ça suffit, ouais. Ça suffit. On en a assez, assez.
Ils vont devoir céder et ils céderont. Eh ben, écoute, je te remercie pour cette brillante intervention. Nous allons mettre tout ça en forme pour présenter ça aux auditeurs. À bientôt.
À bientôt.
Pour de nouvelles.
Absolument.
Allez, salut.
Bonne journée.
Bonsoir. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'était l'émission Mode d'emploi dans la version secrète fabrication avec Bob au micro, Gilles à la technique et moi-même Ludovic à l'animation. Eh bien Bob, l'émission se termine. Donc on a eu un panorama peu de mobilisation ça. Des inspecteurs du travail.
C'est ça. Donc il faut savoir que effectivement c'est quelques moments dans cette mobilisation. Donc à la fois d'action et de commentaires et de réflexion sur ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est pour donner c'est pour dire passer le message que dans tous les secteurs il faut se défendre parce que partout les patrons sont les mêmes, même dans le public c'est pareil, ils sont les mêmes, c'est toujours le même mépris, c'est toujours la même ignorance de nos conditions de travail, de nos conditions de vie, et un peu y compris de ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous sommes les personnes qui donnent une réalité au service, tout comme les ouvriers sont les gens qui donnent une réalité à la production ou au service qu'ils donnent, et on est très mal récompensé pour ça. Mais voilà, le message qu'on voulait faire passer, j'espère que tous les auditeurs l'ont entendu, c'est qu'il est possible de résister, il est possible de trouver des moyens originaux de résister, il est possible de tenir dans la durée, surtout voilà, constituer des collectifs avec vos collègues, constituer des collectifs soudés, parce que c'est ça qui nous permet de faire front face aux empiètements de la direction, quoi. C'est crucial.
Et au niveau des syndicats, donc d'abord ça n'empêche pas de se syndiquer.
Tout à fait. Il faut savoir que l'option qui est retenue par les syndicats dans le département, les syndicats dans le ministère, c'est de mettre en avant les agents et leur organisation, de mettre en avant les AG dans lesquels effectivement tout est débattu, toute la stratégie dont on a vu des éléments est débattu lors des AG, et ensuite évidemment les syndicats viennent légitimer l'action des agents, et en fait c'est une relation qui est la meilleure relation possible. On a trois syndicats dans le coup, et on a CGT Sud et la FSU, et l'intersyndicale tient justement parce que derrière les agents sont aussi soudés, et que donc il n'y a pas une feuille de cigarette entre nous en réalité, sur le terrain on est tous d'accord, quoi. Là on a entendu des gens de divers horizons syndicaux.
Dernière question qui va en quelques minutes. Vous attendez quelque chose de l'élection présidentielle à venir? Pour faire entendre vos revendications.
Non, mais alors très simple. Si c'est Zemmour ou Le Pen, ça va être très compliqué de faire le métier. Parce que on va se retrouver dans la situation de l'inspection du travail sous Vichy. Hein, donc pour organiser le STO vers je sais pas où. Donc ça c'est une première chose, c'est clair. Si les salariés qui m'écoutent veulent juste mon avis, il faut pas voter pour Le Pen, il faut pas voter pour Zemmour, déjà pour commencer. Ensuite, si on a encore un round de Macron, ça va être très difficile, mais ça risque d'être aussi très violent, parce que là il est au bout de sa légitimité dans le monde du travail, c'est clair. Donc ça c'est la seule option, mais qui a peu de chances d'aboutir, c'est qu'on ait un réformateur social positif, progressiste ou une réformatrice, moi je m'en fous, j'ai pas de religion là-dessus, mais qui passe et qui nous permette de souffler un peu, quoi, parce que on va avoir besoin de reconstituer les dans la mesure où je pense pas que ça va, le résultat sera très positif. Tout ce que je peux dire, c'est que plus encore il faut se grouper au niveau des collectifs de travail. C'est de là que viendra la défense, c'est de la solidarité des collègues. Il n'y a pas grand-chose à attendre des institutions dans la situation actuelle, hors nos collègues de proximité avec lesquels on bosse et avec lesquels on lutte, quoi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. On va conclure donc cette émission et on te dit à dans un mois.
Et puis bonne continuation, bonne lutte à tout le monde.
Au revoir.
rutina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada.